Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour, on était avec Dire Straits, Telegraph Road. C'est parmi les meilleures chansons pour moi, en fait, de Dire Straits. Well. Nous étions vraiment avec quelque chose de sublimant. C'était un live de, si je me souviens plus, c'est Alchemy Live. Well, alors, on va passer directement à notre deuxième sujet qui porte sur les pays riches sont-ils endettés? Alors, on va déconstruire un grand mythe. La dette publique n'est pas un problème réservé aux pays pauvres. Au contraire, les pays riches du monde sont souvent les plus endettés. Ils utilisent un mécanisme qu'on appelle l'effet de levier. Il suffit de regarder les chiffres. L'États-Unis, par exemple, plus de 34 000 milliards de dollars de dette. Japon, 260% du PIB. La France, 3100 milliards d'euros. Et puis le Canada, on a environ à peu près 1300 milliards de dollars. Comment expliquer tout ça qu'un pays riche vive une dette immense et continue quand même de fonctionner normalement? Et surtout, où est la limite? En fait, pourquoi les pays riches d'abord s'endettent? Parce qu'ils peuvent, tout simplement. C'est brutal, mais c'est vrai. Un pays riche peut emprunter dans sa propre monnaie à des taux très bas sur des marchés financiers qui l'en font confiance. Par exemple, le gouvernement canadien émet des obligations d'État. Les investisseurs les achètent car c'est l'un des placements les plus sûrs au monde. Même chose pour les États-Unis. Treasury Bond est considéré comme l'actif le plus sûr de la planète. Et les grandes raisons derrière la dette des pays riches, premièrement, on a financé les services publics modernes. Les pays riches ont des systèmes coûteux comme santé universelle, éducation, retraite, infrastructure, défense, programmes sociaux, etc. etc. Et au Canada, les dépenses de santé représentaient près de 13% du PIB en 2024. En France, les retraites coûtent à peu près 330 milliards d'euros par an. Ces dépenses augmentent plus vite que les recettes fiscales. Et pour passer au deuxième point, qui est les crises successives, ça veut dire qu'il y a quand même des dettes successives. Alors, la crise de 2008, les États ont sauvé leurs banques. La dette du Canada a bondi. En Europe, certaines dettes ont explosé. Comme par exemple en Espagne, on a plus de 40%. Irlande, plus de 80%. La Grèce, plus que 110%. On a quand même la deuxième crise, à peu près, c'est la COVID, la COVID-19. Une autre vague d'endettement massive. Quand par exemple, le Canada, près de 400 milliards de dollars canadiens de déficit cumulé. Aux États-Unis, 5000 milliards USD injectés dans l'économie. Et la France, quand même, on a eu des dettes passées de 98% à 115% du PIB. Alors, comme résultat, les pays riches se remettent de la crise, mais leurs dettes restent. Le troisième point, c'est le taux d'intérêt historiquement faible. Pendant plus de 15 ans, les taux d'intérêt étaient proches de zéro. Les pays empruntaient gratuitement. Et au Japon, certaines obligations à 10 ans avaient même un taux négatif. L'État était payé pour emprunter. Le dernier point, parce que la dette finance la croissance. C'est l'effet de levier. Une route, une école, un hôpital, un port, une université, ça veut dire que ce sont des investissements financés par la dette, mais qui créent de la richesse. C'est principalement des pays scandinaves. Endettement raisonnable, mais très bon investissement public. Ça veut dire forte croissance à long terme. Mais pourquoi quand même un pays riche ne fait pas faillite comme une entreprise? Car une entreprise peut se disparaître. Un État, non. Même très endetté, il a des outils que personne d'autre ne possède. Lever l'impôt, par exemple, créer la monnaie, allonger la dette, réduire les dépenses. Comme réduire les dépenses, je peux dire que l'État peut couper dans certains programmes, même si c'est politiquement difficile. Et créer de la monnaie, je peux dire que la banque centrale peut acheter de la dette publique. C'est ce que la Banque du Japon fait depuis 20 ans. lever l'impôt, c'est un pays peut augmenter la TVA, la taxe de valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et ou réduire les niches fiscales. Et allonger la dette, je peux l'expliquer, un État rembourse 30, 5, 50, parfois même 100 ans. Alors les pays développés sont vraiment face au mur, quand la dette devient dangereuse. Car la dette n'est pas toujours un problème, mais elle devient explosive quand trois choses arrivent. Les taux d'intérêt montent. Par exemple, entre 2022 et 2024, les taux ont explosé. Le Canada, de 0,25 à 5%. USA, les États-Unis, 0 à 5,5%. L'Europe, de moins 0,5 à 4%. Ça veut dire que servir la dette coûte beaucoup plus cher. L'exemple de l'Italie, que vraiment, c'est quelque chose de splendide, car l'Italie dépense aujourd'hui 70 milliards d'euros par an. Rien qu'en intérêt. C'est le même budget que l'éducation. Je viens de le dire dans la première chronique. Et aussi, on a la croissance stagne. Car si l'économie ne progresse pas, la dette devient plus lourde. C'est ce qui s'est passé en fait au Japon. Croissance faible, dette énorme, mais pourtant un taux très bas en permis de survivre. Le troisième point qui est la perte de confiance. La perte de confiance des marchés. C'est ce qui a fait exploser la Grèce en 2010. Dette plus de 180% du PIB, taux d'intérêt à 30%, plus personne ne voulait acheter sa dette. Et résultat, on a quoi? L'intervention du Fonds monétaire international et aussi l'intervention de l'Union européenne. Alors, j'aimerais faire un peu de comparaison avec le Maroc et les pays émergents. Le Maroc a une dette publique autour de 70% du produit intérieur brut. Ce n'est pas catastrophique, hein? Mais le pays ne peut pas emprunter un des taux aussi bas que le Canada et les États-Unis. Pourquoi? Parce que les marchés considèrent la dette marocaine comme plus risquée. Donc, les taux sont plus élevés. Donc, les marges budgétaires sont plus petites. Ça, c'est vraiment pour tous les pays émergents. Alors, les pays émergents empruntent plus cher, donc s'endettent moins. Et les pays riches empruntent moins cher, donc s'endettent plus. C'est le paradoxe ici. Et la vraie question dans ça, c'est la dette est-elle un danger ou bien un moteur de développement? Oui. Si je vais répondre simplement, c'est oui. La dette peut être un moteur. Elle finance les infrastructures, protège la période de crise, soutient la consommation, stabilise l'économie. Mais oui, elle peut aussi devenir un piège. Si les taux montent, si la croissance ralentit, si la confiance disparaît, et la dette n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend. Tout dépend ce qu'on fait de la capacité d'être solvable, de la capacité à la rembourser dans le futur. Les pays riches ont compris en fait une chose, la dette est un outil, pas une menace, tant que les marchés leur font confiance. Le Canada, la France, les États-Unis, le Japon empruntent parce qu'ils n'ont pas les moyens politiques, financiers, institutionnels de le faire. Mais la grande question que je vois pour les prochaines années sera, peut-on en fait continuer à vivre avec une dette gigantesque dans un monde où les taux sont redevenus très élevés? Et jusqu'où la confiance des marchés peut-elle tenir? C'est vraiment un débat fondamental et ce débat, il va structurer l'économie mondiale jusqu'à 2030. Alors, pour être court, on va passer par une courte pause. Et puis, le troisième sujet sera l'inflation mondiale entre 2021 et 2025. Et j'aimerais bien comprendre la vraie histoire derrière ces hausses des prix. Alors voilà, c'est maintenant 21h31. Alors, on va passer par une courte pause sur les ondes de CEVA 83. Et après, on enchaîne directement avec la troisième chronique.